J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et encourageante pour tous les croyants, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On va continuer à suivre l'apôtre Paul dans son cheminement aujourd'hui. Et je suis certaine qu'on va en apprendre beaucoup concernant notre marche avec Dieu, pour qu'on puisse en arriver à tout faire pour sa gloire. Alors voici nos questions. Est-il dangereux de remettre sa conversion à plus tard, quand on a compris ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que la main de Dieu guidait ce qui arrivait à l'apôtre Paul quand il était emprisonné? Est-ce que Paul a glorifié Dieu ou a-t-il fait une erreur quand il en a appelé à César, alors qu'il était accusé faussement? Est-ce que les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours? Que devons-nous faire avec ce que Dieu nous donne? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a une Bible ouverte devant lui et il est prêt à nous donner tout le bon enseignement qui vient des Saintes Écritures, tout en répondant à nos questions. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on est à tes pieds et on veut t'écouter, t'entendre comme un petit enfant qui écoute son papa. Enseigne-nous, Seigneur, apprends-nous à bien te servir. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, Paul a comparu devant Félix alors que le souverain sacrificateur s'est présenté à la cour avec les anciens afin d'accuser Paul. Ceux-ci ont accusé l'apôtre de sédition, de rébellion et d'avoir profané le temple. Paul a tout nié et souligné qu'aucun témoin de la scène dans le temple était présent devant Félix. Félix reporta la cause jusqu'à ce qu'il ait entendu la version du tribun Lysias. Cependant, il convoqua Paul pour lui parler, et Drusille, l'épouse juive de Félix, était présente. Paul leur présenta l'Évangile en leur parlant de la justice, de la tempérance et du jugement à venir. Ceci mit Félix mal à l'aise, car il refusait de se convertir. Chers amis, débutons notre lecture d'aujourd'hui, Actes chapitre 24, à partir du verset 25. Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Le comportement de Félix est intéressant à observer. Lorsque Paul a comparu devant Félix et qu'Ananias, le souverain sacrificateur, les anciens ainsi que l'orateur Tertulle, Félix a bien vu qu'il n'y avait pas de motif pour accuser Paul. Félix aurait dû alors libérer Paul. Cependant, comme il était avant tout un politicien, il ne désirait pas déplaire aux Juifs. Il n'a donc pas fait ce qui était bien, mais ce qui l'avantageait politiquement. Puis, Félix a convoqué Paul en privé, et il fut touché par le message de l'Évangile. Cependant, il n'a pas voulu se consacrer à Dieu immédiatement. Il est dangereux de retarder tout retour vers Dieu. Au cours des 2000 dernières années, il fut souvent démontré que les personnes qui reportent toute conversion à Jésus-Christ peuvent arriver à un point où ils seront incapables de le faire. C'est pourquoi la plupart des conversions se font pendant la jeunesse. Nous devons faire des efforts pour présenter l'Évangile aux jeunes. De plus, une personne ne devrait pas penser qu'elle devient plus sage avec l'âge. Les personnes âgées deviennent plus endurcies à l'égard de l'Évangile. Une personne qui est troublée en attendant l'Évangile et qui lui résiste s'endurcit peu à peu. Elle peut devenir indifférente au message. Félix fut effrayé et troublé en entendant la vérité. Cependant, il ne s'est jamais converti. Il n'est jamais venu au Seigneur Jésus. De nombreuses personnes qui ont reporté leur conversion ne se sont jamais repenties plus tard. Quelle catastrophe! Et toi, où en es-tu avec cet appel de Dieu, de te détourner de ton péché et de te tourner vers Jésus en tant que sauveur de ta vie? Verset 26. Il espéra en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Félix était un politicien rusé et véreux. Il espérait recevoir un pot de vin pour ensuite libérer Paul. Un politicien qui recherche le prestige, la gloire, la popularité et les gains sordides. Verset 27. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Félix joua son petit jeu pendant 2 ans. Il laissa Paul en prison. La justice romaine ne pouvait pas être supérieure aux hommes qui l'administraient. Soit que Paul était coupable, soit qu'il était innocent. S'il était coupable de trahison, il fallait l'exécuter. S'il était innocent, il fallait le libérer. Cependant, il n'aurait jamais dû passer 2 ans en prison. La main de Dieu guide ce qui arrive à Paul. Maintenant, Porcius Festus, le nouveau gouverneur, va examiner la cause de Paul. Paul a parlé à la foule en colère sur les marches de la forteresse à Jérusalem. Ensuite, il a comparu devant le Sanhédrin. Puis, ce fut devant Félix, suivi d'une comparution privée avec Félix et son épouse Drusille. Maintenant, il va s'expliquer devant Festus, et plus tard, ce sera devant Agrippa. Tout cela a dû épuiser Paul et même éprouver sa patience. Cependant, il a dû se réjouir d'avoir l'occasion de présenter la parole de Dieu devant l'élite politique de ce coin de l'Empire romain. Lorsque le Seigneur Jésus s'est saisi de Paul sur le chemin de Damas, il lui avait dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Actes chapitre 9, verset 15. Paul accomplit le plan de Dieu. Chaque fois que Paul parle de ce que le Seigneur Jésus a fait pour lui, il le fait avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme. Paul proclamait l'Évangile clairement et avec puissance. Et toi, qu'en est-il de ton témoignage? Quoique Félix ait tremblé en écoutant Paul, sa cupidité et sa convoitise l'ont remporté. Il a eu une excellente chance de donner sa vie à Jésus-Christ. Il a souvent entendu Paul, mais il voulait un pot de vin et non le salut de son âme. Que convoite ton cœur présentement? Nous en savons peu des 2 ans que Paul a passé en prison. Peut-être s'est-il senti irrité à quelques reprises, découragé. Nous ne le savons pas. Cependant, nous savons que la main de Dieu était derrière tout cela et que le plan divin s'accomplissait. Voir cela est un réconfort lorsque nos activités sont à un point mort. Voir Dieu agir, voir Dieu à l'œuvre, de se savoir dans les mains de notre grand Dieu. Quel réconfort et encouragement! Débutons la lecture du 25e chapitre du livre des Actes, versets 1 à 4. Festus, étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Il semble que Festus était au courant du dossier. J'ai l'impression que Félix a dû lui parler de Paul, et il a dû expliquer les circonstances pour lesquelles Paul fut emprisonné. Festus devait savoir que Paul était détenu à Césarée afin de le protéger des Juifs. Lorsque les Juifs demandent à Festus de faire conduire Paul à Jérusalem, ils trouvent un prétexte afin qu'eux descendent à Césarée. Les ennemis de Paul n'ont pas perdu de temps. Immédiatement, ils essaient de convaincre le nouveau gouverneur de condamner Paul. Il se peut que Festus ait su que les Juifs voulaient tendre une embûche à Paul afin de l'assassiner. Mais si c'est le cas, il n'a rien laissé paraître. Quoi qu'il en soit, il ne leur livra pas Paul afin qu'ils le jugent. Versets 5 à 7. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'ils l'accusent. » Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul est de nouveau invité à présenter sa défense, et il profite de l'occasion pour présenter l'Évangile à Festus. Versets 8 et 9. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. » Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Le gouverneur Festus est un autre politicien véreux. Paul est véritablement au milieu de ce qu'il y a de plus croche et de plus malhonnête. Mais sa confiance est en Dieu. Verset 10. Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. » Certains pensent que Paul a fait une erreur ici. Ils pensent que Paul n'aurait jamais dû en appeler à César, mais qu'il aurait dû laisser Festus s'occuper de sa cause. Mes amis, Festus était pour se servir de Paul afin de promouvoir ses propres intérêts politiques. Festus aurait ramené Paul à Jérusalem. Le gouverneur avait peut-être déjà reçu des pots de vin. J'hésite à critiquer le geste de Paul. Il n'a pas commis d'erreur. Paul était un citoyen romain et il a exercé ses droits comme tout autre citoyen l'aurait fait. Retourner à Jérusalem aurait signifié son arrêt de mort. Et Paul n'avait pas à s'exposer délibérément au martyr. En fait, il a tout fait pour éviter de devenir un martyr. Mes amis, aujourd'hui il y a des personnes qui aiment poser en martyr. J. Vernon McGee, l'auteur des textes que nous employons, souffrait d'un cancer à la fin de sa vie. Certaines personnes lui ont dit qu'il pouvait se réjouir parce qu'il avait un cancer et qu'il pouvait maintenant souffrir pour la cause de l'Évangile et pour son Seigneur Jésus, et peut-être même mourir pour lui. Voici ce qu'en pensait Vernon McGee. « Bien. » Laissez-moi vous dire que je ne ressens pas de joie à cause de ce cancer. Je veux même m'en débarrasser. Je veux vivre. Je pense qu'une personne est déprimée spirituellement et mentalement si elle veut simplement se laisser mourir. Il y a 2 ans, le Seigneur est apparu à Paul et lui avait promis qu'il rendrait témoignage à Rome. Actes chapitre 23, verset 11. C'est ce qui se produit maintenant. Paul est allé à Rome, enchaîné et conformément à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi cette façon de procéder. Lorsque Paul a écrit son épître aux Romains, il a dit qu'il priait afin de pouvoir venir à Rome. Il leur a demandé d'en faire autant. Romains chapitre 1, versets 9 et 10, ainsi que Romains chapitre 15, versets 3 et 32. Donc, Paul va à Rome parce que c'est la volonté de Dieu. Verset 11. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Il dut y avoir une note d'impatience dans les paroles de Paul. Rome était reconnue pour sa justice et Paul respectait l'autorité. Cependant, les gouverneurs n'étaient pas disposés à lui rendre justice. Donc, il en appelle à César, l'équivalent de la Cour suprême. Dieu voulait qu'il utilise ses droits de citoyen romain. Il est intéressant que Dieu dirige des personnes d'une manière, tantôt d'une et tantôt d'une autre manière. D'autres n'auraient pu réclamer leurs droits. Et nous, utilise-t-on ce que Dieu nous a donné pour sa gloire? Un chrétien qui aime le Seigneur et son épouse furent bénis par Dieu sur le plan matériel. Ils se sont construits une belle maison et ils y accueillaient chaleureusement des visiteurs. Ce chrétien a dit à son pasteur qu'il avait la conviction qu'il devait offrir l'hospitalité et recevoir des gens pour témoigner. Son pasteur lui dit, « As-tu déjà pensé que Dieu t'a béni avec des richesses et qu'il t'a donné cette belle maison parce qu'il savait que tu l'utiliserais pour sa gloire ?» Le pasteur a ajouté, « Dors bien tous les soirs, sachant que tu accomplis la volonté de Dieu et remercie-le pour ta maison. » Tout ce que tu possèdes, mets-le à la portée de la gloire de Dieu. Si tu es devenu politicien, sers-toi de cette position pour le Seigneur. Si le Seigneur t'a donné un bien quelconque, utilise-le pour lui. Moïse n'avait qu'un bâton dans sa main, mais il devait l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est ce que doit faire Paul. Dieu lui a accordé la citoyenneté romaine, et il doit s'en servir pour la cause de Dieu. C'est le bâton que Dieu lui a donné. Donc, Paul glorifie Dieu et il n'a pas fait d'erreur. Et toi, es-tu prêt à utiliser ce que Dieu t'a confié pour sa gloire, afin qu'il puisse en sortir des honneurs pour notre grand Dieu? Verset 12. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Festus n'a plus aucun choix. Il doit envoyer Paul à Rome pour qu'il comparaisse devant César. Verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Le roi vient faire la connaissance du nouveau gouverneur. Tous ces politiciens devaient travailler ensemble pour le même parti. Versets 14 et 15. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit, « Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. » Agrippa et Bérénice restèrent à Césarée assez longtemps. Lorsqu'ils ont épuisé tous les sujets de conversation, Festus parla du cas de Paul au roi Agrippa. Il demande l'opinion d'Agrippa au sujet de ce dossier épineux. Verset 16. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. J'aimerais attirer votre attention sur un détail. Nous pensons souvent que la loi romaine était injuste parce qu'elle n'a pas rendu justice au Seigneur Jésus et à Paul. En fait, le problème n'était pas la loi romaine, mais les politiciens. Notre propre système judiciaire interdit de condamner et punir un homme sans qu'il soit reconnu coupable au cours d'un procès. Ne sautons pas les étapes, chers amis. Et regardons le problème là où il se trouve, le cœur de l'homme. Versets 17 à 19. Ils sont donc venus ici, et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal, et je donnai l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. La question fondamentale est toujours la même, la résurrection, chers amis. Paul avait témoigné de la résurrection du Seigneur Jésus devant Festus. Versets 20 à 22. Ne sachant quel parti prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. Agrippa, dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Festus est dans l'embarras. Paul est accusé de sédition, un crime punissable de mort. Mais il n'a pas commis de crime, et il en a appelé à César, car Festus voulait le faire juger à Jérusalem. Que faire avec un tel prisonnier? Donc, Festus demande à Agrippa de l'aider. Je pense qu'Agrippa avait entendu parler de Paul et qu'il désirait fortement le rencontrer. Il voulait en connaître davantage au sujet des accusations et entendre ce que Paul a à dire pour sa défense. Donc, une autre comparution est organisée devant un autre politicien. Les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Il est intéressant de remarquer que la comparution fut organisée par un roi et un gouverneur. Alors qu'ils faisaient cela, à leur insu, ils accomplissaient une prophétie. Le Seigneur a dit que Paul comparaîtrait devant des rois. Dieu est souverain, chers amis. Rappelez-vous que Dieu est au-dessus de toutes choses. Verset 23. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Dieu nous a tous accordé des biens matériels et des dons. De plus, il nous fait vivre des expériences qui peuvent nous être utiles pour en aider d'autres. Cela peut être une victoire sur l'alcoolisme ou encore sur un autre péché compulsif. Est-ce que nous mettons tout cela au service de nos frères et sœurs en Jésus ou encore l'utilisons-nous pour l'avancement de l'Évangile? Je connais un couple qui aide les chrétiens qui sont alcooliques au moment de leur conversion. Dieu les a libérés de cet esclavage et maintenant ils secourent les jeunes convertis. D'autres contribuent à l'Église en donnant leur temps pour des rénovations, des réparations et des projets spéciaux. Ouvriers, techniciens et artistes peuvent se rendre utiles dans une assemblée de croyants. Mettons au service de Dieu tout ce que nous possédons et ce que nous sommes. D'autres se servent de leurs relations ou de leur situation pour aider des chrétiens ou des églises à faire avancer des dossiers. Dieu nous a tous bénis d'une façon ou d'une autre. Que faisons-nous avec ce qu'il nous a accordé? Rappelons-nous ce que la Bible a à nous dire à ce sujet. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Au service les uns aux autres, voilà la devise du véritable chrétien. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Actes chapitre 25 verset 22 à chapitre 26 verset 4.
Merci Régent. Tu m'as fait réfléchir quand tu nous as demandé si on utilisait tout ce que Dieu nous avait donné pour sa gloire. Je sais qu'on a tous des dons, qu'on a tous un vécu qui nous donne de l'expérience dans certains domaines. Certains croyants ont des richesses, d'autres ont accès aux politiciens, aux gens que Dieu a choisis pour gouverner notre pays. D'autres ont accès à la médecine. Il y en a certains qui sont habiles pour aider ceux qui se convertissent et qui viennent d'un milieu où il y avait des abus d'alcool, des problèmes de drogue, de l'abus sexuel, de la violence. Ça m'épate de voir à quel point on a besoin les uns des autres. Tantôt, je peux aider un frère ou une sœur en Jésus-Christ en utilisant mes dons et mon expérience. Et tantôt, c'est une autre personne qui m'aide avec ses dons et son expérience. J'aime tellement l'exemple que le Seigneur nous donne dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 12 à 31. Je vous encourage à lire ce passage en entier. Paul compare l'Église du Seigneur à un corps pour démontrer qu'on a besoin les uns des autres. Et quand on est un enfant de Dieu depuis plusieurs années, on peut constater à quel point c'est vrai qu'on a besoin les uns des autres. Écoutez bien ce que Paul dit dans les versets 14 à 17. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Au verset 21, il ajoute que l'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous ». Et au verset 27, il dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Je suis tellement heureuse de ne pas être simplement un membre d'un organisme quelconque, mais membre du corps de Christ. Je suis peut-être seulement un petit orteil, mais je sais que le corps a besoin de moi comme j'ai besoin du corps. Et je suis heureuse de pouvoir servir les autres membres du corps avec les dons que Dieu m'a accordés. Je considère même que c'est un honneur de servir les membres du corps de Christ. Je suis heureuse d'être co-ouvrière avec Christ et avec mes frères en Jésus-Christ, en sachant que je suis aussi co-héritière du royaume de Dieu. Quand je pense que je vais passer l'éternité avec Dieu, simplement parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, à son sacrifice à la croix, que j'ai reçu le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, simplement en mettant ma confiance en lui, en lui demandant de me sauver, ça m'émerveille encore aujourd'hui, même si je suis sauvée depuis plus de 26 ans. Oh, merci Seigneur. Et toi, mon ami, est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Sinon, j'aimerais t'inviter à en faire partie. T'as pas besoin de payer pour avoir une carte membre. Tu n'as pas besoin de mériter d'en faire partie en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Tu n'as qu'à reconnaître Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, en reconnaissant aussi que tu es un pécheur perdu, une pécheresse qui a besoin de son pardon. Jésus frappe à la porte de ton cœur maintenant. Invite-le à entrer. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire et tu vas devenir membre de son corps, dont il est la tête, le maître. Et tu pourras goûter dès aujourd'hui combien c'est merveilleux d'appartenir à Dieu, d'avoir l'assurance de passer l'éternité dans la présence de ce Dieu si merveilleux.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir et ici à Radio Espoir pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.